France Inter.
Salut Fred, et merci beaucoup pour ton édito sur les mamans solo. Tu devrais avoir d'ailleurs la propre blockbuster, ou peut-être une légion d'honneur. Vu à qui on la donne, je pense qu'elle le mériterait beaucoup plus. Et ton émission va énormément me manquer. Depuis que j'écoute blockbuster, je peux plus entendre To Be un autre To Be sans avoir envie de répondre. Not To Be. Donc voilà, écoute, je t'embrasse fort, je te fais des gros bisous, tu vas me manquer. Et c'était Céline, la Lorraine de La Réunion. Gros bisous avec le bruit des annonces.
Salut Frédéric, moi c'est Célia. Donc je voulais te laisser un petit témoignage. Ce matin, en me reconnectant sur mon application France Inter pour écouter ton émission après 15 jours de vacances, j'ai découvert que ce serait sûrement la dernière saison de Blockbuster. Alors voilà, je voulais te dire qu'il y a 8 ans, quand j'ai repris le travail en 2017, un an après la naissance de mon petit garçon, j'ai découvert ton émission et depuis, je crois que j'ai écouté tous les épisodes. J'aime énormément ton émission. Voilà, j'ai appris plein de choses sur la pop culture et c'est vraiment super. Et ça m'a permis de me sentir moins seule sur ma tournée d'infirmière libérale parce que c'est pas toujours évident. Et je voulais te dire aussi que on l'écoute avec mes enfants et on adore parce que mes enfants sont des grands fans d'animé. Donc voilà, je suis très triste que ça se termine sûrement cette année et j'espère que c'est juste une mauvaise blague. Voilà, salut.
To be or not to be, not to be.
Je suis sidéré à chaque fois que je lis qu'une série ou un film est considéré comme trop politique. Alors attention, par trop politique, faut entendre trop à gauche ou trop woke. Parce que si vous faites un film ou une série qui lie l'insécurité à l'immigration, le féminisme à la haine des hommes et l'écologie au terrorisme environnemental, vous n'êtes pas trop politique. Vous êtes quelqu'un de raisonnable, qui a une liberté de ton et qui ose poser le débat sur la table sans peur du qu'en dira-t-on. Au pire, vous risquez même une légion d'honneur. Tout le reste, trop politique. Le Superman de James Gunn, par exemple, pour certains, trop politique. Superman, il a quand même été créé en 1938 et Lex Luthor en 1940. Il aura donc fallu 87 ans à certains pour se rendre compte que Superman est un immigré qui se bat contre un milliardaire mégalo et raciste. Star Wars, pareil, ça date de 1977. Et bien 48 ans plus tard, il y en a qui découvrent que George Lucas dénonçait tous les impérialismes et louait la rébellion sous toutes ses formes. Oui, Luke Skywalker et ses copains, vu de l'Empire, c'est des fucking terroristes. La couverture du premier comic book Captain America. Il met littéralement une patate à Adolf Hitler. 85 ans plus tard, t'as des mecs qui se roulent par terre en découvrant que Steve Rogers n'a pas une énorme sympathie pour les néo-nazis. Ses œuvres ont toujours été politiques pour leur époque. Les auteurs et autrices n'avaient que faire de Donald Trump, d'Elon Musk et autres égaux fragiles et boursouflés de l'Internet moderne. Ils voyaient pas dans le futur. C'est uniquement notre époque à nous qui s'évertue à faire revivre les super-vilains du passé.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
On a grandi avec la technologie impériale, ça nous a rendus vulnérables. Il y a tant de choses qu'on savait, mais que l'Empire nous a fait oublier. Des choses comme être libre.
Nemec voit de l'oppression partout.
Skin fait semblant de ne pas écouter, mais je sais que le message fait son chemin.
Il est en train d'écrire un manifeste. Il te l'a dit ?
Apparemment, ce qui nous empêche d'être libres, c'est seulement quelques petites idées.
Quelques petites idées. Notre époque est déroutante, la situation est catastrophique, il y aurait tant de choses à dire et tout ça va tellement vite. Le rythme de la répression annihile notre capacité à ouvrir les yeux. C'est le vrai tour de force de l'Empire, ça se dissimule plus facilement derrière 40 atrocités plutôt qu'un incident isolé. Mais ils ne mesurent pas l'ampleur de leur tâche. Nous nous accrochons si fort à nos droits fondamentaux qu'ils vont devoir retourner la galaxie pour nous faire lâcher prise.
Je serais curieux d'entendre ce que Clem pense de ça.
Je sais contre quoi je me bats. Tout le reste va devoir attendre.
Vous aimerez ce que j'écris.
Conçu comme une préquelle du film Rogue One, la série Andor est ce qui est arrivé, selon moi, de mieux dans l'univers Star Wars depuis très très longtemps. En deux saisons, le showrunner Tony Gilroy s'est appliqué à montrer, en utilisant l'univers connu de la Guerre des Étoiles, que le fascisme ne se limite pas au bruit des bottes dans la rue, mais touche toutes les strates de la société, des administrations à la chambre du Sénat, en passant par les médias. Plus qu'une série, c'est une véritable leçon. Et pour en parler, je suis très bien entouré. Bonjour Phobos.
Hello.
Vous êtes cosplayeuse et chroniqueuse pop culture, on peut notamment vous entendre dans deux podcasts entièrement consacrés à Star Wars, Outrider et Star Wars en direct.
C'est ça.
Avec nous de retour également, Jérôme Neusbaum, bonjour.
Bonjour.
Alias Draven.
C'est moi.
Animateur du podcast ciné 24 FPS dans Galactifrac autour de Battlestar Galactica et sur TikTok pour parler science-fiction sous le pseudo Draven.
Merci de me recevoir à nouveau pour cette ultime saison.
Et avec nous, un revenant, mais un beau revenant, Benjamin Vatineau, bonjour.
Bonjour.
Créateur de la chaîne Bolchet Geek sur YouTube, animateur de l'émission populaire sur la chaîne YouTube du média L'Humanité, co-présentateur de Corporate sur Blast et auteur du livre Le Syndrome Magnéto au Diable Vauvert.
Exactement, je suis très content d'être là, même si ça serait dans d'autres circonstances, ce serait mieux.
Mais non, arrête, j'ai l'impression d'être mort à chaque fois. Non, allez, on termine en beauté, allez.
And what do you sacrifice?
Vous sacrifiez quoi, vous?
Calm, le calme, kindness, kinship, la douceur, les relations humaines,
love
et l'amour.
I've given up all chance at inner peace. I made my mind.
J'ai renoncé à l'espoir de connaître la paix de l'âme et j'ai fermé mon cœur à la lumière.
I share my dreams with ghosts.
Je partage mes rêves avec des fantômes.
I wake up every day to an equation I wrote 15
years ago. Je me réveille tous les matins pour jouer un scénario que j'ai écrit il y a 15 ans et qui n'a qu'une conclusion.
I'm damned.
Je suis maudit pour ce que j'ai choisi de faire.
My anger, my ego, my unwillingness.
Ma colère, mon ego, mon incapacité à céder, mon envie de me battre.
Set me on a path.
Tout cela m'a mis sur un chemin dont je ne peux m'échapper. Je rêvais d'être un sauveur, un rempart contre l'injustice, sans réfléchir aux conséquences. Et quand j'ai enfin baissé les yeux, je ne reconnaissais plus le chemin que j'avais pris. Alors vous me demandez ce que moi j'ai sacrifié. Je me suis condamné à utiliser les méthodes de mon ennemi pour le vaincre. Je me prive de ma conscience pour offrir un avenir aux autres. Je me prive d'une vie aujourd'hui pour assurer des lendemains que je ne verrai jamais de mes yeux. Et mon ego, qui est à l'origine de tout ce combat, n'aura jamais ni miroir, ni foule reconnaissante, pas la moindre étincelle de gratitude. Vous me demandez ce que moi je sacrifie ? Je sacrifie tout ce que j'ai.
Un extrait de l'épisode 10 de la saison 1 d'Andor, où on peut entendre cet incroyable monologue de Stellan Skarsgård qui joue Lucen, et il est doublé en français par Gabriel Ledose. Alors, au commencement, avant Andor, il y avait le film Rogue One de Gareth Edwards qui sort en 2016 et qui remporte un énorme succès Phobos.
Oui, effectivement. C'est donc le deuxième film que Disney sort après avoir repris la franchise Star Wars. Et ils ont choisi de faire un bond dans le passé et de nous raconter en fait ce qui se passe avant la trilogie originale, avant l'épisode 4. Et donc c'est là que Rogue One naît.
Donc je rappelle pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, l'épisode 4, le premier Star Wars, c'est l'épisode avec Luke, Obi-Wan Kenobi et la destruction qui s'achève par la destruction de l'étoile noire. Draven, comment vous avez reçu ce film Rogue One? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de débats parmi les fans de Space Opera et de Star Wars autour de Rogue One.
Alors, c'est pas le film qui a le plus fait débat dernièrement dans la galaxie Star Wars, mais en tout cas, moi je l'ai reçu comme un miracle en fait, quelque chose de sublime, parce qu'on revenait à la période que je préfère à titre personnel, on revenait donc sur la trilogie originale, et puis on revenait aussi à quelque chose que j'adore, une bataille spatiale, et à une bataille spatiale absolument dantesque qui conclut ce film. Donc pour moi ça a été un cadeau sublime et je sais que je l'ai dit à l'époque et je le dis encore, le rachat de la licence Star Wars par Disney valait le coup rien que pour Rogue One quasiment. Mais heureusement il y a eu d'autres bonnes choses depuis.
Et justement Rogue One, ça parle de quoi en fait ?
L'idée, c'était de nous montrer toutes les personnes qui ont été impliquées dans le vol des plans de l'étoile noire, avant donc la destruction qu'on a pu voir en 1977, et de nous montrer que tout ça, en fait, dépendait de l'implication et du sacrifice aussi de pas mal de personnes et de toute une organisation rebelle qui est encore jeune, on le sent, et qui a encore un peu de mal à se coordonner, mais qui fait face à un tel danger et qui a envie d'agir contre ce danger et qui finit par se coordonner et donner tout ce qu'elle a pour lutter contre ça, quoi.
Benjamin Patineau, c'est aussi via Rogue One et encore plus dans Andor, l'envie de mettre un visage
sur tous ces figurants qui composaient la grande histoire qu'on connaissait tous, voilà, les rebelles contre l'Empire. Et là, en fait, dans Rogue One, on introduit l'idée que chacun de ces résistants a une vie, des motivations différentes, n'ont pas forcément des facultés, c'est pas des Jedi. Et en fait, plus on avance, plus on remonte le temps dans Andor, plus on se rend compte que ce qu'on nous a donné à voir depuis 77, c'est-à-dire le folklore, les Jedi, la force, etc., ce côté élu et messianique, non, la résistance, c'était pas ça du tout. C'était des monsieur et madame tout le monde obligés de mettre les mains dans le cambouis.
Oui, en fait, c'est ça que ça a apporté, et surtout qu'Andor a énormément développé, parce qu'en soi, l'histoire de comment récupérer les plans, etc., c'est un point de départ qui n'a pas grand intérêt en soi, mais ce qu'ils ont été chercher, c'est le sujet de la résistance, et même dans Andor de la Révolution, c'est que c'est traité pas juste comme une rébellion un peu, voilà, propre, c'est-à-dire qu'il y a les méchants dictateurs, et du coup, on va remettre la République, le statu quo, et tout va bien se passer. Non, c'est montré comme un mouvement révolutionnaire, et c'est ça l'inspiration qui est derrière de Tony Gilroy, et qui était un petit peu là aussi dans Rogue One, parce que ça montrait qu'en fait, c'est des sacrifices, des fois c'est sale, il y a des questions éthiques qui se posent, il y a des conflits entre eux, ils sont pas tous là pour les mêmes raisons, ces gens-là, et ça prenait vraiment à bras-le-corps cette idée de la résistance, un peu au-delà justement de l'aspect un peu magie, New Age, etc., qui avait fait le charme aussi de la saga, mais en fait c'est ça la force des grandes sagas, il y a aussi d'autres aspects, et celui-là avait pas été tant exploré que ça avant.
Phobos, à quel moment Kathleen Kennedy, qui était à la tête donc de Lucasfilm à l'époque, a donné son feu vert pour la création d'Andor la série?
Alors, c'est difficile de donner une date exacte, on va dire, mais on sait que tout de suite, dans la foulée de la sortie de Rogue One, vu que le film a eu un bon accueil du public, il y a des séries qui sont entrées en production, notamment pas aussi pour alimenter la toute nouvelle plateforme de Disney, Disney+, qui est l'espèce de Netflix de Disney.
Oui, et le némésis de beaucoup de franchises.
C'est ça. Voilà. Et donc, dès 2017, en fait, il y a des annonces comme quoi on va faire des séries live-action sur Star Wars, ce qui est donc une grande première, parce que jusqu'ici, on n'avait eu que des séries animées. Et on sait que la série commence, des gens commencent à travailler dessus en 2017-2018. Il y a plusieurs showrunners qui sont attachés au projet, mais visiblement c'est un petit peu de mal à décoller, jusqu'à ce qu'on rappelle Tony Gilroy, qui avait été la personne qui avait retapé le scénario de Rogue One, et donc on lui demande de revenir pour faire le scénario de Andor, et là vraiment c'est parti, la série entre en pré-production donc en 2019-2020.
Jérôme, Draven, comment avez-vous reçu cette première saison d'Andor quand vous avez eu l'occasion de la voir ?
J'ai été extrêmement surpris par le ton. Dès les premiers épisodes, j'ai senti qu'on avait affaire à un produit très différent, nettement plus mature, et ça s'est confirmé d'ailleurs dans toute la suite. Hein. On n'est pas là, c'est pas l'univers Star Wars habituel qu'on connaît.
Mais d'ailleurs, je pense même que j'ai la preuve à la maison qu'on n'a absolument pas besoin d'être fan de Star Wars pour apprécier cette série. Non, mais c'est important pour les auditeurs et auditrices qui hésiteraient. Vraiment, vous pouvez voir Andor comme The Wire. Hein. La comparaison est à dessein. C'est-à-dire, c'est une grande série, point.
Je suis entièrement d'accord et je l'ai déjà dit d'ailleurs, je pense que Andor est une série qui est même faite pour des gens qui n'aiment pas forcément Star Wars, qui ne sont pas fans de bataille spatiale ou de combat au sabre laser ou de choses comme ça. Ils devraient regarder Andor parce qu'effectivement c'est une proposition différente, plus sombre, plus mature, plus fouillée aussi au niveau des thématiques abordées. Et moi en tout cas je m'attendais pas à ça, je pensais pas que Disney validerait un projet comme ça et donc j'ai accueilli ça avec surprise, mais beaucoup de joie.
Benjamin Patino, Phobos, j'ai eu le sentiment, avec la note d'intention de Tony Gilroy, d'habitude, quand les franchises vieillissent dans le temps, comme ça, il faut toujours les rebooter. Donc, quand George Lucas a créé Star Wars, il avait en public cible des enfants de 7-8 ans et un peu plus, mais il fallait les faire rêver. Et Tony Gilroy, j'ai l'impression qu'il s'est dit « Ah, mais en fait, les fans de Star Wars, ils ont grandi, ils ont 40-50 ans, ils continuent d'être fans de Star Wars, ok, c'est des adultes, je vais leur parler comme à des adultes, et l'Empire, le fascisme, c'est ça, c'est pas juste une cape noire et un souffle rauque, en fait. » Et je sais pas comment vous l'avez reçu, mais moi, j'ai eu l'impression d'avoir un scénariste qui me dit « Hop, je vous suis !»
Ah, très clairement, il y a un aspect que c'est une série qui est peut-être pas pour un jeune public, mais je serais pas si sûr que c'est pas aussi une série qui est faite pour des nouvelles générations qui découvrent Star Wars et dans une autre période aussi. Et où, par exemple, voilà, la prélogie, il y avait le côté, c'est très les années Bush et tout, il y avait déjà des sujets un peu politiques. Bon, elles ont plein de problèmes, mais elle est très de cette période-là. Moi, je suis pas sûr que c'est pas aussi une série qui s'adresse à des nouvelles générations pour à qui on peut plus juste expliquer que le fascisme, c'est des mecs avec des bottes qui sont très méchants, qui font péter des planètes, parce que bah, ça s'arrêtait pas là dans Star Wars, mais c'était un petit peu voilà, ce truc emblématique à l'époque. Et là, maintenant, je pense que pour toute une nouvelle génération, c'est beaucoup plus concret que ça. Et c'est des choses, justement, du quotidien, dans les institutions, dans la rue, dans les entreprises, tout ce qu'on voit, en fait, dans Andor. Et moi, je serais pas surpris que ça informe aussi une nouvelle génération qui peut pas se contenter des vieilles représentations, parce que là, il y a une urgence, et ils vivent quelque chose aussi qui est différent. Et là, la série essaie d'y faire écho aussi.
Phobos ?
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et c'est hyper intéressant que tu dises, ouais, peut-être qu'il s'adresse en fait aux fans qui auraient vieilli, mais c'est Tony Gilroy qui le dit lui-même quand il s'est retrouvé dans sa Writer's Room avec les différents scénaristes avec qui il a travaillé. Il leur a dit, ok, peut-être vous avez regardé Star Wars, peut-être vous êtes fan de Star Wars vous-même, mais ça, vous le mettez de côté. Vous mettez de côté votre nostalgie pour tout ce que vous connaissez, etc. Et vous m'écrivez une série d'espionnage qui se passe dans le monde de Star Wars. C'est pas une série Star Wars d'espionnage. Et en ce sens-là, effectivement, c'est assez différent et ça s'adresse, je pense, comme tu le dis, à des nouvelles générations, parce qu'il faut aussi le remettre dans le contexte, c'est juste après, donc, la série commence à entrer en production après Rogue One et cette nouvelle trilogie qui sort, et donc ils cherchent aussi à accrocher ces nouveaux fans qu'ils ont déjà accrochés au cinéma et à les ramener sur le petit écran, à les faire aller plus loin. Donc c'est pas vraiment que pour les adultes, je pense que c'est aussi pour tous les jeunes adultes, en tout cas peut-être les adolescents, qui ont découvert Star Wars avec cette nouvelle trilogie de 2015.
Avec Rey, Kylo Ren, etc.
Exactement.
La deuxième saison d'Andor nous fait découvrir la civilisation des Gors, un peuple qui rappelle la France, teinté d'une imagerie un petit peu des pays de l'Est. Eh bien, on écoute leur hymne, We Are the Gore.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
I was a good deputy inspector.
J'étais un très bon inspecteur adjoint.
I was very good. Je vous assure, j'ai résolu un double meurtre et retrouvé le tueur en deux jours. J'ai été un peu trop ambitieux, c'est vrai, mais le temps était compté et il y avait une occasion à saisir. J'aime servir l'Empire. Je sens que vous aussi. Est-ce qu'on peut être trop agressif quand on doit maintenir l'ordre ? Je n'ai pas mérité ce qui m'est arrivé.
Je vous souhaite bonne chance. J'ai beaucoup de travail.
Il est évident que vous avez besoin d'Andor pour retrouver son complice. Il est aussi évident que cette enquête va bien au-delà de la mort de deux agents de sécurité. Je pourrais contribuer à résoudre cette affaire.
Si vous attirez l'attention, si vous recommencez, ce ne sera pas à moi que vous aurez affaire cette fois.
Forget this happened.
Oubliez toute cette histoire.
C'était un aperçu de l'épisode 9 de la première saison d'Andor, Kyle Soller dans le rôle de Cyril Karn avec la voix française de Marc Arnaud et la formidable Dennis Coe qui incarne Dedra Mero et qui est doublée par Audrey Sourdive. Alors là, on a deux membres de l'Empire, un petit bureaucrate qui essaie de gravir les échelons complètement étouffé par une mère qui est bien pire que l'empereur Palpatine.
Clairement.
et en fait, c'est terrible parce que c'est ce que je vous disais en off. Andor change complètement le regard qu'on porte sur Star Wars dans son intégralité et sur l'Empire. C'est-à-dire que, grosso modo, le fascisme, c'est pas forcément des gens qui sont moches, à envoyer des éclairs par les yeux, c'est aussi des bureaucrates qui ont envie de faire carrière.
Ouais, totalement. C'est l'un des plus gros apports, je trouve, de cette série par rapport à ce qu'on a vu dans les films. Les méchants ont toujours une place importante dans Star Wars, mais avec cette série, on découvre les petites mains qui font l'Empire. L'Empire est un régime totalitaire, complet, mais qui ne pourrait pas fonctionner sans justement tous ces petits bureaucrates zélés, sans tous ces agents de renseignement ou ces agents de terrain qui sont ambitieux.
Sans ces policiers.
Et sans ces policiers, voilà, tout à fait. Qui sont ambitieux, qui ont envie de gravir les échelons et qui vont donc profiter de ce système pour leur profit personnel. Bon, après, ils sont aussi relativement convaincus, hein, on le voit par l'Empire. Mais effectivement, on est passé dans les films des grands méchants, des hautes sphères, aux petites mains de l'Empire. Et c'est très intéressant de voir comment... Ils sont essentiels en fait à ce fonctionnement, quitte à être eux-mêmes écrasés par la machine qu'ils essaient de défendre.
Et Phobos, là Jérôme parle du fait que certains membres de l'Empire sont convaincus, mais on voit aussi qu'il y a une propagande particulièrement traitée dans la saison 2 autour de l'information, de la manière dont on présente certaines planètes, certains conflits. Il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que même au sein de l'Empire, et même si on fait partie d'un bureau de contre-espionnage, on ne sait pas tout.
Alors oui, en fait, c'est vrai que la saison 2 explore beaucoup la notion d'information et de réalité, que ce soit à travers les médias qui sont contrôlés littéralement par l'Empire. Il y a notamment une scène assez terrible qui rappelle notamment la conférence de Wannsee pendant la Seconde Guerre mondiale, où les nazis se sont mis d'accord sur la solution finale. Et donc là, il y a une scène très similaire dans la série, où on a des espèces de mecs du marketing des médias qui viennent expliquer leur plan de propagande pour faire passer les Gorman comme des gens terribles et que donc c'est pas grave en fait si on détruit leur planète et si on tue des millions de personnes. Et donc il y a tout ce sujet-là qui est repris et qui est très important et même sur la fin de la saison 2 il y a un discours au Sénat de la sénatrice Mon Mothma qui explique qu'en fait une des choses les plus graves qui se passe dans l'Empire c'est l'abysse qui est en train de se créer entre ce dont on discute, les informations qui circulent et la réalité du terrain, la réalité de cette force de l'Empire qui est en train de préparer littéralement un génocide d'un peuple. Et en fait, c'est cet écart-là entre l'information et la réalité qui est d'une cruauté terrible et qui, malheureusement, en fait, résonne beaucoup trop avec notre actualité.
Benjamin Patino, d'ailleurs, Tony Gilroy lui-même l'a déploré, c'est-à-dire que, parce qu'à chaque interview, on lui a posé la question, on lui a dit est-ce que vous évoquiez tel ou tel massacre qui a lieu ici et maintenant, et il disait mais non, moi j'ai écrit la série il y a quelques années, je suis dépité de voir à quel point elle est pertinente par rapport au réel, mais c'était pas du tout mon intention.
Oui, et d'ailleurs, j'ai vu qu'il faisait référence à une idée que je trouve intéressante, il se revendique de ce que disait Tolkien, qui disait, ou Tolkien, pardon, pour les fans, qui disait qu'il aimait pas les analogies, les métaphores. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est une métaphore de ça. Lui, ce qu'il aimait bien, il appelait ça l'applicabilité, ou on pourrait dire la pertinence en français. C'est-à-dire, en fait, ça, ce n'est pas une métaphore d'un truc en particulier. C'est plus fort que ça, mais par contre, ça fait écho puissamment avec des choses passées, parce que Tony Gilroy, en réalité, c'est ce qui fait que la série fonctionne. C'est un passionné d'histoire des révolutions. Il le dit en interview. Il s'est intéressé à Cuba, à l'Irlande, à la Palestine, à l'URSS, évidemment. Il y a une scène qui est inspirée des braquages des bolcheviques, notamment celui de Tiflis où il y avait un certain Joseph Staline qui avait participé, qui a inspiré un des épisodes, et ça fait écho partout maintenant. Et je vais reprendre ton exemple, c'est même sans que ce soit voulu, cette scène du discours où en fait on suit au Sénat tous les médias verrouillés, tout le Sénat verrouillé à dire soutien conditionnel aux forces qui luttent contre les méchants terroristes sur cette planète lointaine, et que la sénatrice Maud Motma arrive et dit les termes et dit non, là en fait vous avez divorcé avec la réalité, ce qui se passe, c'est un génocide. Et l'emploi le terme, c'est impossible, que ce soit voulu ou non, de pas penser à Gaza. C'est impossible. Mais parce qu'en réalité, ça fait écho à des choses qui se sont passées dans l'histoire, et en fait à des phénomènes, plus qu'à des inspirations précises, même s'il y en a comme la révolution, la résistance française, qui est là,
avec
c'est,
les
là, c'est pas plus qu'une référence, c'est, oui, que c'est un hommage, quoi. Genre, c'est vraiment, ils ont les bérets, ils ont tout. Voilà, en fait, plein de choses. Et en fait, le gore, ça fait autant écho à la Palestine qu'à la résistance française, et qu'à plein d'autres choses, peut-être futures et passées, quoi.
Et justement, en fait, ce piratage en bonne et due forme, hein, et un piratage voulu et désiré par Lucasfilm, parce qu'ils ont embauché Tony Gilroy, c'est... je pense qu'eux-mêmes, ils ont dû être un petit peu surpris du produit fini, parce qu'il faut quand même rappeler que même si Andor est une série plébiscitée par les critiques, par les fans de Star Wars, c'est pas la série la plus regardée sur Disney+, hein, de très très loin. C'est toujours Le Mandalorian qui cartonne. Donc en fait, c'est une série qui a encore à convaincre le grand public d'être regardée.
Oui, c'est une série qui est très appréciée par les gens qui la connaissent, mais qui reste un peu une série de niche. Tout simplement parce qu'en fait, quand vous êtes une famille, vous avez des enfants, vous allez les mettre devant The Mandalorian, où il y a bébé Grogu, et il y a des Jedi, il y a des sabres laser, et en fait, on retrouve l'ambiance d'un Star Wars familial. Et là, du coup, ben, c'est une série qui est, comme on dit, c'est beaucoup plus sombre, il y a des sujets très très durs qui sont abordés assez frontalement. Et... c'est vrai que je pense que chez Disney, enfin, c'est une anomalie. Enfin, Disney, c'est un immense conglomérat. Aux États-Unis, ils ont des pratiques qui les rapprochent plutôt de la droite, voire l'extrême droite, sur certaines questions du droit du travail, etc. Donc, en fait, c'est vraiment une anomalie qui nous pond une série antifasciste de deux saisons qui est hyper radicale et qui va jusqu'au bout, quoi.
Oui, parce que même si c'est de la science-fiction... je doute que des chaînes généralistes produisent une série comme Andor en France, par exemple.
Mais d'ailleurs, ça se voit dans la promo de la saison 2. En fait, on avait l'impression qu'ils ne savaient pas trop comment parler de cette série. Et ils nous ont fait des trailers avec genre de la musique rock et juste des extraits, des critiques des journalistes qui sont très bonnes. Mais ils ne mettaient pas vraiment en avant le fait que c'est une série qui est pro-révolution armée et qui clairement vous dit prenez les armes et allez renverser votre régime, quoi. Donc ouais, c'est vraiment un bug dans la matrice Disney, quoi.
Un bug dans la matrice. On est ensemble pour parler de la qualitative série Andor. Alors évidemment, là, je sais, il y a des auditeurs qui disent « Bah non, ils appellent à la révolution, c'est pas qualitatif !» Bah oui, mais bon, bah, vous aurez qu'à faire votre émission. mais pour le moment, on écoute UFOV, interprété par Vald.
BBP, CDP, je vais les faire, tant qu'il me reste des PV, je sais que faire, des CD, VVV, VVS, Franck S, Franck West, banlieue Est, porte F, CDG, dernier G, joue à G.
rêvais d'elle. J'avais que un L, de mauvaise polia. Que dalle sur mon CV. Je dansais le Mia, endetté et pété. J'ai rien inventé, comme ChatGPT. Je me suis défoncé, c'était pas du CBD. Un jour j'ai pété le score, dis-moi GG. J'enchaîne les images comme si c'est des BD. Souvent c'est crypté, je paye pas l'IPTV. Je traîne sur FL comme Daniel Balavoine. Je suis un poisson, mon salon un aqua. Rodente qu'j'y vais comme JCVD. J'avais déjà tout dit dans le freestyle CQFD. NQNT, 1, 2, NQNT. 33XEU, CMEC, Agartha, HV, VE, VV5. Ça c'était classe S1, yeah, yeah. Classe A, yeah, yeah. Classe affaires, direction Nouméa, S, Kalos, Emira, USA, déjà F, yeah, yeah. ASB, j'fais l'AR au cimetière, yeah, yeah. RAF, de l'empreinte carbone, yeah, yeah. Cœur blanc, ça se voit au rayon X. Je baisse tout, je devrais sortir au rayon X. A à Z, j'ai tout compris, là ça y est. La question c'est être un SS ou ne pas être un SS. Des serpents m'écrivent SSSSS. Je fais gaffe à mon ASS, fuck un SOS. Je suis plus LOL, même si je suis seul dans mon délire. Comme ces mecs d'IDF qui crient à l'LOM. C'est pas grave. Ils reviennent tous en DM, tiens qu'est-ce qu'elle dit LOL. J'casse des JLOR. La famille c'est de l'or, c'est pas que des LOV. J'suis dans V pour Vendetta, dans V pour Voldemort. T'es dans tous tes états, j'suis dans V pour Vendetta. J'suis dans V pour Voldemort, j'suis le danger comme Walter White. Toi t'es le danger sol mouillé. J'perds comme si j't'embrouillais. BBP, CDP. Je vais les faire, tant qu'il me reste des PV, je sais que faire, décédé, VVV, VVS, Franck S, Franck West, banlieue Est, porte F, CDG, dernier G, choix G. Fin des haricots, HIP, HOP, FRRIP, je les balaye tous. J'fais qu'une rime, tout le monde tombe, c'est la loi Rico. Eux y'a le HIV, HOP dans leur D2C. Tête de B, t'es amené à disparaître comme les 2B3. Moi,
j'ai ce jeu. Frédéric Sigrist.
So far, so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
You sound insane.
Non, listen.
Je crois que t'es dingue.
Non, écoute-moi.
They don't have enough guards.
Ils n'ont pas assez de gardes pour toute l'usine et ils le savent.
Afraid.
Et ils ont peur. Je peux te dire qu'ils ont
peur.
Ils ont peur de quoi, hein? Ils viennent de tuer 100 prisonniers pour les empêcher de parler.
What would you call that?
Comment t'appelles ça, toi?
J'appelle ça le pouvoir.
Le pouvoir. Le pouvoir panique pas, Kino.
5000
hommes vont bientôt apprendre qu'ils ne quitteront jamais cette usine en vie.
Don't you think that worries them upstairs?
Tu crois pas que ça les inquiète un peu là-haut?
Whatever we're making here,
je sais pas ce qu'on fabrique, mais c'est quelque chose dont ils ont besoin, c'est clair.
They can't afford to be surprised.
Alors ils peuvent pas se permettre d'autres surprises.
There'll never be less guards than
tomorrow. Il n'y aura jamais
moins
de gardes que demain. Tu le sais très bien, je suis le programme. Chaque jour qu'on laisse passer, on les laisse devenir plus forts.
Je serais peut-être malin d'avoir un plan.
On a un plan.
Oh, tu parles, c'est quoi? Tu vas bien manquer mes chiffres.
Sois pas stupide, on n'a pas de temps à perdre.
Tais-toi.
Tu comprends pas, le plan repose sur l'arrivée du nouveau prisonnier. Ils vont remplacer Olaf demain matin. Ça se reproduira peut-être pas avant qu'il soit trop tard. Et je préfère risquer ma vie en essayant de briser nos chaînes que de crever en leur donnant ce qu'ils veulent.
C'était le 10e épisode de la saison 1 d'Andorre avec le personnage de Kino Loy joué par Andy Serkis, doublé par Boris Rélinger, et le personnage principal Cassian Andor joué par Diego Luna et doublé par Jean-Christophe Dolé. Jérôme, parlons de Cassian Andor, justement. Ce personnage qui est vraiment aux antipodes de la conception moderne des héros. Il donne rien, il est extrêmement aride, il est taiseux, il fait pas de blagues. Et pourtant, il est incroyable.
C'est ça, il est extrêmement doué. Je pense qu'il s'en rend même pas compte. En fait, lui, il suit son petit chemin très personnel. D'ailleurs, à l'origine, il ne fait que essayer de retrouver sa petite sœur, et puis après essayer de s'échapper parce qu'il est recherché. Et il n'est pas du tout intéressé par la rébellion contre l'Empire à la base. C'est quand même assez marquant parce que c'est uniquement par le biais de son propre parcours personnel et de finalement de ce qu'il va, euh, ce qui, euh, enfin ce qu'il va assister, enfin ce qu'il va voir de ses propres yeux, comment ça va affecter ses proches, sa famille, que tout doucement, effectivement, d'abord il se fait recruter pour ses compétences, mais ensuite il va devenir un convaincu de cette rébellion. Mais c'est quelqu'un qui ne cherche pas à être sympathique, c'est quelqu'un qui n'est pas un exalté de la rébellion, loin de là. C'est quelqu'un qui essaie juste de faire son chemin et qui est très renfermé sur lui-même, quoi. Et c'est, comme tu le disais, aux antipodes complets du prototype du héros qu'on voit habituellement.
Phobos ?
Oui, et je pense qu'un truc qu'on peut souligner aussi, c'est que si on regarde un peu sur la production en lui-même, le fait de choisir Diego Luna, qui est donc un acteur qui n'est pas natif américain, et qui a cet accent très fort d'ailleurs qu'on a entendu dans l'extrait, en soi, c'est une petite révolution pour Star Wars. Et d'ailleurs, l'acteur le dit en interview, il est super fier de représenter la communauté latino à l'écran, et surtout d'avoir pu garder son accent en jouant, parce qu'il avait posé la question à Tony Gilroy, genre, est-ce que je peux garder mon accent ? Il a dit, mais oui, en fait, enfin, ça fait partie de l'histoire, en fait, ça fait partie du personnage, et ça raconte quelque chose, et ça rajoute en fait une richesse supplémentaire à ce personnage.
Benjamin Patino, votre avis sur Cassian Andor ?
Oui, c'est ce que je disais juste avant. Moi, il me fait penser à un héros que j'aime beaucoup, qui est celui des Fils de l'Homme, de Alfonso Cuarón, où c'est un personnage qui est dans une révolution, qui est dans une rébellion, mais qui n'est pas dans des postures, qui n'est pas dans des grands discours, et qui montre qu'en fait, ce qui compte, c'est d'agir de manière concrète, de faire ce qui doit être fait, y compris des trucs parfois un peu moralement douteux, et du coup, il est...
Mais d'ailleurs, on le voit, l'idée de résistance et de rébellion, c'est beaucoup de factions et des factions qui sont pas composées par des gens bien.
Oui, carrément. Il y a même, d'ailleurs, c'est le discours qu'on a entendu au début de Luthen qui dit mais moi en fait je suis devenu une ordure, je suis devenu ce que je combats, mais en fait je suis obligé de faire ça. Et d'ailleurs Luthen, il est intéressant sans spoiler parce que c'est quelqu'un qui a fait des choses sales toute sa vie. Juste il a décidé de les faire pour la cause en fait, pour justement que ça s'arrête. Et il y a tout ce truc dans Andor qui est permis par le fait que c'est une série aussi et pas un film, c'est que c'est très choral. Et j'aime bien la comparaison avec The Wire, je valide un petit peu aussi parce qu'il y a ce côté de en fait, c'est plein de rapports de force, c'est plein de gens qui changent, qui ont des trajectoires différentes, qui se rebellent pas pour les mêmes raisons. Le personnage d'Andy Serkis qu'on a entendu, qui est vraiment le dernier personnage dont on s'attendrait à ce qu'il se rebelle, on comprend pourquoi il en vient là et comment tous ces gens se rejoignent. Et effectivement, c'est dans ces moments-là, historiquement, c'est toujours comme ça. C'est plein de gens avec des trajectoires différentes qui se mettent ensemble et qui découvrent la puissance qu'ils ont collectivement et qui ne sont pas dans des postures à décider qui est le meilleur, etc., ou à faire des grands débats intellectuels, mais qui sont dans des actions concrètes qui peuvent leur coûter très, très cher. Et ils sont obligés de faire les uns avec les autres, avec toutes les dissensions qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est très bien traité par la série.
Et il y a, en regardant le parcours du héros, en l'occurrence là pour Cassian Andor, de l'anti-héros, dans ma tête, je le mettais en relation avec le parcours de Luke Skywalker, et ils ont quelque chose en commun. Ça pourrait être les deux faces d'une même médaille, parce que là où Luke a vraiment ce statut de héros à la Joseph Campbell, voilà, je ne sais rien, mais en même temps, j'ai une prédisposition à la force. Cassian Andor aussi, mais c'est montré à la manière de Andor, c'est-à-dire que là où Luke c'était vraiment, on saute dans la piscine magique, etc., là on y met juste un orteil, mais leur parcours reste quand même assez... se répondent, sauf que Cassian Andor, lui, il voulait pas être spationaute et quitter la ferme de l'oncle Owen pour découvrir le monde, lui il voulait juste frapper l'Empire là où il pouvait prendre un peu d'argent.
Oui, mais en fait, c'est presque valable pour tous les personnages. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont presque un peu tous leur super pouvoir. Ils sont tous utiles à un moment. Et Andor, effectivement, il a des facultés qui font qu'on peut le suivre un peu tout le temps parce qu'il est quand même très très balèze. À un moment donné, il dit mon pouvoir, c'est que j'ai de la chance. Et effectivement, il est dans un truc un petit peu comme ça. Mais je trouve que ça vaut pour le mec qui est à l'hôtel et dont on ne savait pas qu'il était sympathisant de la résistance et qui lui file un coup de main. Et qu'on voit 5 minutes dans le
mais
film.
Mais vous savez bien que dans Star Wars, le hasard s'appelle la force.
Oui, carrément. Et son pouvoir, c'est d'être là, à cet endroit-là, à ce moment-là, et de faire la bonne chose au moment où on a besoin de lui. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est très très beau dans la façon de traiter l'héroïsme ou justement ces anti-héros un peu insolites pour ce genre de saga.
Et j'aimerais aussi qu'on aborde l'aspect politique de Andor, incarné par le sénateur Mon Mothma, actrice qui est absolument incroyable. Mais ce que je trouve hyper frappant dans Andor, c'est que initialement, elle est dans la résistance, mais elle le fait en imaginant en fait que ça ne va pas la salir. Il y a un côté je finance un peu la résistance, mais tout en restant quand même dans mon sérail, voilà, sur le mariage à Chandilard avec une grosse bourgeoisie, et je trouve qu'on voit aussi à quel point l'engagement au bout d'un moment est obligé de vous prendre. Il n'y a pas de demi-mesure. On n'est pas un peu pour la résistance, mais on va utiliser. Il faut y être complètement, en fait. Et je trouve que. Quel est votre ressenti par rapport à Mon Mothma?
C'est un personnage essentiel dans la saga, hein. C'est un personnage qu'on avait déjà découvert dans Le Retour du Jedi en 1983, mais on ne savait quasiment rien d'elle. Et d'ailleurs, George Lucas voulait qu'on en sache un tout petit peu plus sur sa jeunesse. Donc déjà, d'ailleurs, avec l'actrice qui a repris le rôle dans Endor, hein, Genevieve O'Reilly, qui incarnait déjà Mon Mothma dans Star Wars épisode 3. Malheureusement, toutes ces scènes ont été coupées, notamment ces scènes en commun avec Amidala. Mais c'est un personnage passionnant parce que elle, c'est une vraie idéaliste. Elle veut faire quelque chose contre l'Empire. Elle sait qu'il y a un problème avec le régime de Palpatine depuis le début. Et elle a tenté quasiment toute sa vie de résoudre ça par la voie politique, par la voie normale, par la voie sénatoriale. Voilà. Et tout doucement, ça va l'atteindre à un niveau beaucoup plus personnel, puisque pour pouvoir notamment financer la rébellion, elle va devoir accepter un mariage pour sa fille, des choses comme ça, donc des choses qui vont l'atteindre personnellement. Et son parcours nous montre effectivement à quel point elle va finir par perdre ses illusions politiques et elle va se rendre compte qu'il faut effectivement tout sacrifier à titre personnel pour pouvoir faire vraiment quelque chose d'utile.
Phobos ?
Et je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant aussi parce que il montre que pour faire la rébellion, enfin la rébellion, elle peut venir aussi de personnes qui ont des privilèges et qui les utilisent à bon escient. Et en fait, c'est ce qu'elle fait parce qu'elle vient d'une famille très très riche. Donc dans un premier temps, elle utilise sa propre richesse pour financer la rébellion. Et le problème, c'est que justement, elle a dépensé tout son fric et qu'elle a besoin d'en trouver plus. Et elle utilise également toute sa position politique pour faire passer différentes infos. Sa cousine est également dans la résistance, donc c'est un truc de famille. Et jusqu'à la fin, en fait, au moment où elle fait ce discours sur la notion de vérité et pour dénoncer le génocide en cours, elle utilise tous les privilèges qu'elle peut avoir au niveau, au niveau politique, au niveau de ses passe-droits, etc. Et jusqu'au moment où elle n'a plus le choix, elle doit fuir, sinon elle va être arrêtée et probablement tuée. Mais en fait, pendant vraiment beaucoup, beaucoup d'épisodes, on a ce personnage de la haute bourgeoisie qui cherche quand même à faire quelque chose. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'on n'avait pas trop vu, en fait, jusqu'ici dans la plupart des médias sur les révolutions et les rébellions.
Benjamin ?
Ouais, je suis pas aussi féru que vous de l'univers vraiment canonique Star Wars, mais il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, et je sais pas si ça avait été amené avant, c'est que là on voit que sous l'Empire, là on est vraiment sous l'Empire, il y a Palpatine et tout, il y a un Sénat encore, et il y a une activité parlementaire, alors qui est vidée de son sens de plus en plus, parce qu'en réalité c'est assez fantoche, mais du coup il y a encore cette illusion chez certaines personnes, en fait peut-être par la voie parlementaire on peut encore le faire, et ça marche dans une certaine mesure, jusqu'à un certain point, comme tu dis, et ça j'avais jamais vu ça, et je trouve ça très intéressant sur justement la nature des régimes autoritaires, c'est qu'il y a un côté, c'est pas d'un coup Palpatine arrive, il est une étoile noire et il tue tout le monde et on fait ce qu'il dit, c'est que non, en fait il y a des institutions derrière qui continuent, qui prolongent et qui sont un peu à peu vidées de leur l'efficacité, et sur le truc de justement utiliser ses privilèges jusqu'au bout, cette réplique je la trouve très drôle quand elle arrive dans vraiment la résistance où ils sont dans la boue, dans la forêt, et où elle...
Sur
Yavin, et qu'elle dit à l'autre sénateur, mais ça nous fait regretter le Sénat, c'est-à-dire que jusque-là elle était à son max de sacrifice, et elle se rend compte qu'en fait il y a des gens depuis des années, en fait, qui sont les pieds dans la boue, en train de se faire buter, et qu'en fait, ils ont un combat commun, en fait, ils sont obligés de se rejoindre alors qu'ils n'ont pas du tout la même trajectoire.
On va attaquer la quatrième partie de Blockbuster, tel un X-Wing dans les tranchées de l'étoile noire, mais tout de suite après What You Mean par Green Tea Peng.
To me. Stop licking us. Tell me to my face. Here for it now.
They grow, jealousy no more, that must have been controlled. Green eyes and they bold, coming from my goal. Grip, grip, it holds, the certain chest it grows. We drip, drip, yeah, we pouring, the monster been ignoring. We sleeping, yeah, we snoring, it's knocking, it's important. Let the rhythm raise your thumb and see, yeah, yeah. So show me what you made of. 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 You think I care about your opinions? I think they valid, but they can't do me harm. I'll take it on. Your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel at home, so show me what you made of.
Frédéric Sigrist.
I am your father.
Sur France Inter.
Are you crying? Est-ce que tu pleures? Are you? Tu pleures? Look at me. Regarde-moi. Look at me. Regarde-moi. There's no place to hide. Look at me. Tu n'as nulle part où te cacher. Regarde-moi. I'm not going to say remember this because I don't have to. Je ne vais pas te dire n'oublie jamais ça parce que ce serait inutile. This is on you now. Désormais, elle est en toi. This is like skin, comme une seconde peau. You're taking her with you wherever. Tu l'emporteras avec toi partout. Tu iras jusqu'à la fin de ta misérable vie. Regarde-moi quand je te parle.
Je suis désolée. Je suis tellement désolée.
C'était une guerrière.
She was everything that you have dated.
Elle était tout ce que tu as toujours rêvé de devenir. Elle n'avait peur de rien. C'était une vraie guerrière, dont la mort sera pleurée d'une manière dont tu ne pourras jamais mesurer l'ampleur.
She was a miracle.
Elle était un miracle.
And you.
Et toi,
like this because of you.
Mourir comme ça à cause de toi.
Some whining. Simpering.
Un gamin idiot, un pleurnichard, voué à se plaindre toute sa vie. Je t'interdis de pleurer.
You'll make up for this forever.
Tu vivras avec ça jusqu'à ta mort.
L'une des scènes les plus marquantes de la saison 2 d'Andor, dans l'épisode 6, où Vel Sarta, joué par Faye Marseille et doublé par Adeline Moreau, fait un sermon bien mérité au pathétique Sam, joué par le français Abraham Vapleur, qui se double lui-même comme un grand. Là, on a entendu Vel Sarta, la cousine de Mon Mothma, mais j'aimerais qu'on parle justement de toutes ces guerrières qu'on voit dans cette série. Il y a Cinta, l'amie de Vel, mais aussi Cleia et Bix, qui sont vraiment mais autant de visages féminins qui apparaissent dans un Star Wars qui a souvent été assez chiche en représentation féminine, en dehors de l'incroyable princesse Leia, Phobos.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelques personnages emblématiques, bien sûr, dans toute la saga Star Wars, que ce soit la princesse Leia ou la reine Amidala, mais en termes de nombre, effectivement, elles sont un peu moins nombreuses. Et donc là, il y a un côté assez rafraîchissant d'avoir un casting qui est mixte globalement. De toute façon, il y a énormément de rôles, beaucoup de personnages dans cette série. C'est aussi l'occasion, pour la première fois pour Star Wars, de représenter un couple lesbien à l'écran, puisque Vel et Cinta donc, sont en couple, hein, et que le dialogue qu'on vient d'entendre, c'est l'une d'entre elles qui vient de perdre l'autre. Toutes ces femmes sont à la fois très, très fortes, elles ont bien sûr leurs failles, ce qui fait des gens très réalistes, et je pense notamment au personnage de Bix, qui est peut-être un des personnages...
Adria Arona.
Incarné par Adria Arona.
La future qui Wonder Woman. Ah, je le dis, si j'en suis sûr.
On croise les doigts pour elle.
Ils font semblant de... On ne sait pas, mais si, ils le savent très bien, c'est elle. D'accord.
Qui est une petite révolutionnaire qui est une ex puis nouvelle compagne de Cassian et qui subit en fait la torture dans la saison 1. On voit comment elle gère avec ce PTSD à travers la drogue. Ensuite, elle subit une tentative de viol par un soldat de l'Empire. Et tout ça pour finir par devoir abandonner la révolution parce qu'elle est enceinte de Cassian. Et en fait, toute la trajectoire de ce personnage, ça montre toute la richesse de ce qu'on peut explorer à la fois dans les combats qu'elle-même, les traumas qu'elle a vécu, qui sont les traumas des révolutionnaires et des personnes qui vivent en fait sous un empire fascisant. Et c'est un des nombreux personnages féminins qui sont très riches, puisqu'on a aussi des personnages de méchantes, hein, comme Dedra Miro, dont on a parlé tout à l'heure,
aussi.
Qui est absolument incroyable également.
Mais d'ailleurs, qui, ça va peut-être vous faire bondir, mais qui est une victime aussi, parce qu'il y a quand même un moment très précis où elle dit que ses parents étaient des criminels, et elle a été donc élevée dans un centre qui appartient à l'Empire, un kinder, je ne sais plus comment, mais une sorte d'orphelinat de l'Empire, où on les conditionne dès l'enfance à être des agents de l'Empire. Donc même elle, tout comme Cyril et les autres, en fait, ils n'ont pas eu une énorme marge de liberté, Jérôme.
Non, clairement, c'est une preuve supplémentaire hein, de cette machine totalitaire, effectivement, qui utilise tous les moyens de propagande, on l'a déjà dit aussi, et d'auto-persuasion et de choses comme ça, et de torture parfois même sur ses propres membres pour faire avancer la machine. Il y a, en fait, c'est intéressant parce que ça montre la déshumanisation totale de ce système qu'on met en balance face à, effectivement, les gens, les vrais gens du terrain qui, eux, se battent, essayent de faire quelque chose. Donc oui, c'est intéressant de voir que même ceux qui semblent les plus convaincus, ou qui sont les plus convaincus, sont probablement les premières victimes du truc. Ouais.
Benjamin Patineau.
Oui, à la limite, il y a un truc que je trouve intéressant dans la façon dont Endor gère justement les personnages féminins comme ça, y compris dans les rouages, parce qu'en fait, elle a un rôle d'officier, mais elle est quand même justement une victime et en fait une subalterne qui d'ailleurs très très vite peut sauter sans problème. Et un truc qu'Endor fait assez bien par rapport à d'autres choses que Disney peut faire, où des fois ils comprennent pas la portée politique, je pense, de comment ils gèrent des exigences de diversité et tout, c'est que des fois ils vont faire l'Empire, mais dans l'Empire, ben en fait, va y avoir des gens racisés, va y avoir des femmes à des postes de haute responsabilité, donc on se retrouve avec une espèce de fasciste, mais qui respecte la diversité,
oui,
donc c'est un peu...
Oui, qui a des quotas.
Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, là, dans Andor, il y a énormément de personnages divers et variés, mais par exemple, plus on monte dans la hiérarchie de l'Empire, et plus on se retrouve dans des réunions où va y avoir que des mecs blancs, d'un certain âge, et c'est pas vraiment dit, c'est-à-dire que c'est pas dit comme ça, et plus on descend dans la résistance et même dans les classes populaires, et là on commence à avoir des personnages féminins, plus de diversité aussi au niveau ethnique, et ça, sans que ce soit dit, ça a une importance. Par exemple, le fait qu'il y a tout ce passage où justement ils sont clandestins et ils travaillent dans des champs, c'est pas dit comme ça, mais le fait que ce soit des acteurs latinos américains et qui est le sujet de dire en fait l'Empire laisse travailler des clandestins parce qu'en fait ils peuvent les exploiter comme ils veulent et dès qu'ils ont envie de les dégager, hop, ils les raflent et ça dégage. Ils sont pas là parce qu'ils sont latinos, mais ils ont quand même mis des acteurs latinos là. Et ça, c'est très très bien géré dans Andorre, on va dire, le poids de la représentation symboliquement aussi dans ce que ça peut faire inconsciemment écho dans le public.
Comme l'a si bien dit Phobos, on est toujours face à un bug dans la matrice Disney Andorre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de cette série que je vous invite à voir, revoir. Vraiment, ça vaut le coup. Je ne sais pas si elle sera récompensée, mais pour moi en tout cas, je lui remets des prix. C'est la fin de cette émission. Merci Phobos, merci Jérôme, merci Benjamin. Une émission réalisée par Étienne Bertin qui a été préparée par Lisiane Larbani et Benjamin Ducy avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amadaïn Guest. Et aujourd'hui à la technique, il y avait Mathias Aléon et Adèle Caglar au mixage. Comme toujours, pour les messages, le répondeur c'est 01 56 40 30 20. Et si vous voulez parler avec moi directement sur les réseaux sociaux, Instagram @FrédéricSigrist. Et demain, après des des années de lobbying intense, on parlera enfin du jeu de plateau Warhammer 40 000.
Des actes d'insurrection se produisent sans cesse à travers toute la galaxie. Il y a des armées entières, des bataillons entiers qui ne savent pas encore qu'ils sont déjà engagés pour notre cause. Rappelez-vous que la première ligne de la rébellion est partout. Et même l'acte d'insurrection le plus insignifiant fait avancer notre ligne de front. Et surtout, rappelez-vous ceci. Si l'Empire a besoin d'un contrôle aussi désespéré, c'est parce qu'il n'est pas naturel. La tyrannie exige un effort de tous les instants. Mais elle s'effrite. Et elle casse. L'autorité est fragile. L'oppression est le masque de la peur.